C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
Le bras de fer est engagé entre le gouvernement et les émetteurs offshore. Le projet de loi, appelé Marine Broadcasting Offense Act, suit le processus législatif. Et le gouvernement espère qu'il pourra être voté au printemps 1967. Il est donc clair que l'intention n'est nullement d'autoriser les radios offshore à émettre depuis la Terre. Les intéressés clament qu'il leur sera possible de survivre avec de la publicité et des ravitaillements venant de l'étranger. En septembre 1966, l'offensive gouvernementale se concrétise pour la première fois. Radio 390 et Radio Essex BBMS, qui émettent depuis des forts marins, sont visés par une procédure pour émission illégale d'un programme radio diffusé en violation de la loi sur l'attribution des fréquences.
BBMS, Britain's Federal Music Station. BBMS, broadcasting 24 hours a day to bring you the best in sound.
Le ministère des Postes britannique va utiliser contre Radio 390 et BBMS exactement le même argument qui avait été employé en décembre 1964 contre l'île artificielle de Rem Island par les autorités néerlandaises. Se fondant sur la Convention de Genève à propos des frontières territoriales marines, le ministère des Postes affirme que l'estuaire de la Tamise peut être considéré comme une baie et qu'il ne faut donc pas tenir compte de la distance en surface entre la côte et les deux forts concernés.
Coming your way from BBMS very shortly. A new program between 6 and 7 every evening, Mondays to Fridays. Strictly instrumental. And as the title suggests, you'll be able to hear all your top instrumental favorites from... to... Not forgetting.
The Daily Mail, mardi 18 octobre 1966. Les entreprises américaines pourraient sauver Radio Caroline, par Ian Smith. New York, lundi, la station pop pirate Radio Caroline, qui doit être réduite au silence au printemps prochain par un projet de loi gouvernemental visant à supprimer sa publicité britannique, espère continuer à fonctionner grâce à la publicité américaine. Monsieur Ronan O'Reilly, le co-directeur général de Caroline, âgé de 26 ans, a aujourd'hui effectué une tournée éclair des bureaux de publicité de Madison Avenue. Il a annoncé avant de rentrer chez lui « J'ai discuté de contrats qui rapporteront à Caroline un minimum $1 million, 357 000 livres en 1967. Cela signifie que si le gouvernement interdit aux entreprises britanniques de continuer à faire de la publicité sur notre radio, nous ne serons pas réduits au silence. Le gouvernement britannique n'a aucun pouvoir sur les annonceurs américains. » Cela donnera aux entreprises américaines et canadiennes une plateforme pour un public de millions de personnes, ce qui sera probablement interdit aux rivaux britanniques. Cela augmente les possibilités en Grande-Bretagne de vendre des produits américains plutôt que d'acheter des produits britanniques, en particulier pour les adolescents qui dépensent beaucoup. Cela va à l'encontre des efforts du gouvernement britannique pour combler le déficit de la balance des paiements. Le projet de loi a déjà été lu en première lecture. Monsieur Harold Wilson a admis récemment qu'il a apporté au gouvernement plus de lettres de protestation que tout autre projet de loi.
There you go, that's Peter Finton, number 40 of the Caroline Gun out of town. Former sure shot 2 weeks ago. Marble breaks and iron bends. That's the one that Drafty Deutscher, fellow from Cologne, West Germany, had a big hit out of. Not a big hit, a pretty good size hit over in the States and a minor hit here in the British Isles.
Wow! And so will you at Blackpool's most in-place, the Twisted Wheel Club, Coronation Street, Blackpool. The discotheque for the greatest sounds, both live and on disc. It's the Twisted Wheel Club, Coronation Street.
Oh, good!
50 yards from the Winter Gardens in Blackpool.
A Caroline Marsh sure shot now. It's from the powerhouse and Raindrop.
Le 20 octobre 1966, un communiqué officialise une rumeur qui se propageait déjà depuis plusieurs semaines. Swinging Radio England va cesser ses émissions. Les bailleurs de fonds américains, constatant l'échec de la radio, vont louer l'émetteur et une partie des studios du laisser-faire à une société néerlandaise qui souhaite lancer un programme concurrent à la très populaire Radio Veronica. Swinging Radio England disparaît le dimanche 13 novembre à 23h30, 5 mois seulement après son lancement officiel.
Points for you too, and that gaining experience and also gaining the knowledge of living in Great Britain and possibly a new business of your own.
Possibly so. This is in the works. We don't know yet for sure, though.
Very good. Bill, thank you very much. Pleasure working with you.
My pleasure.
And we'll see you again.
You probably will.
And from everyone, from Phil Martin, from Errol Bruce, from Bruce Wayne,
and Roger, you're the oldest man here. Come on around and say the final words before we say goodbye for SRE, Swingin' Radio England.
Put away my handkerchief. There.
Okay.
Nothing coming up.
Roger?
Oh, yes. Oh, well, thanks, and to use a bit of bunches for moving in, but I should be at the Uppercut Discotheque 3 nights a week, which is in London, so come down there. That's a free plug for him, no, but this big boxer guy runs it, Billy Walker, and he says if I don't work there, he's going to smash my face in. No, but anyway, I want to hope you'll come down there and see me, and thanks for tuning in for 6 very boss months. So from Roger Day, hi, hello, are you, and bye, hello, are you tonight.
Le lendemain, depuis le laisser-faire, Radio Dolphinge ouvre son antenne. La programmation musicale n'est pas top 40. Il s'agit d'un format plutôt tourné vers un public adulte. Pour les responsables de la nouvelle station, le but est de concurrencer l'historique Radio Veronica sur le marché publicitaire tout en proposant une offre musicale alternative. Radio Dolphinge se veut être une sorte de Britain Radio pour le public néerlandais.
Radio Dolphinge zendt dagelijks uit op de 227 meterband. Van 's morgens 6 tot 's avonds 12 uur. Radio Dolfijn brengt u muziek en nieuws. Radio Dolfijn wil uw trouwe huisvriend zijn. Radio Dolfijn richt zich vooral op de volwassenen. Met prettige, aangename klinkende muziek. Met evergreens die al generaties lang populair zijn. Met melodieuze muziek die u dagelijks urenlang kunt beluisteren.
Si les radios maritimes britanniques sont dans la tourmente politique, elles sont de plus en plus scrutées hors des frontières du pays. C'est particulièrement le cas depuis la France, où les deux plus importantes radios périphériques, comme on les appelait, luttent pour le leadership. En cet automne 1966, c'est Europe numéro 1 qui a l'avantage, grâce à une grille des programmes plus en phase avec les goûts du public jeune. En octobre, la station a organisé une émission conjointe avec Radio Caroline. Mais Radio Luxembourg, qui ne va pas tarder à devenir RTL, a décidé de rajeunir son antenne. Et pour cela, elle lorgne aussi un peu du côté de l'Angleterre. Et encore une fois, c'est Radio Caroline qui va être sollicitée. En novembre, un DJ très populaire qui officie sur le Miamigo, Empereur Roscoe, va traverser la Manche pour débarquer à Paris.
Daddy, yo. Don't think twice, it's Alan Price sounding mighty fine, yeah! It's 25 minutes now before 5, time to come alive! Teddy Poppers and Finger Poppers, we're gonna do the thing right here with the Emperor Roscoe on Caroline Sound. Emperor Roscoe da Gama, first American discoverer, like destroyer. Ah, brush your teeth, Roscoe. You would do it, wouldn't you? Got to do the thing right now with Sam and Dave. Hold on, I'm coming. Do the jerk now. Don't you ever
be sad. Emperor Roscoe n'est pas totalement inconnu en France. Il a déjà travaillé pour Radio Monte Carlo et le 16 juillet 67, les téléspectateurs de la première chaîne peuvent le voir dans un documentaire consacré à Radio Caroline et filmé en partie sur le Miamigo.
Ici, monsieur l'héritier.
Est-ce qu'il y a une différence entre être disque jockey à Radio Caroline et être animateur dans une autre station de radio?
Une énorme différence au point de vue. Un disque jockey est quelqu'un qui travaille dans le rythme de la musique et son première chose qu'il veut faire pour le public, c'est de passer un maximum de musique avec un minimum de conversation. C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un. Ou par exemple, en France, la plupart du temps, il y a un maximum de blabla et un minimum de musique.
Maintenant, vous êtes bien payé ici?
Très bien payé.
Combien?
Ah, ben ça, c'est presque indiscret d'un point de vue impôt. Mais je peux dire que... Non, j'ose même pas vous dire combien je suis payé. Franchement, je peux pas.
Parce que vous trouvez que c'est trop?
Non, non. Pas assez encore. Ça va être encore plus dans quelques mois.
Roscoe, pourquoi le gouvernement britannique est-il tellement opposé aux stations de radio commerciales?
On a beaucoup de force. Les gens, nous avons beaucoup de gens qui nous écoutent, plus que leur station État. Même nous avons des règlements très stricts, nous ne parlons pas des politiques, parce que notre travail c'est de passer des disques. Alors ils ont bien compris ça et je crois que c'est à cause de ça qu'ils ont en réalité jamais rien fait contre nous. Ils ont compris que nous n'avons pas des ambitions politicales.
Vous n'avez pas de bulletin d'information?
Ah oui, deux fois tous les heures. Et nous faisons des bulletins très internationaux. Madame Cluck a perdu ses poulets sur la ferme à Sussex, en parlant des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous pensez du terme radio pirate?
Pour nous, ça n'existe plus. Nous sommes radio offshore station. Parce que pirate, c'est une très mauvaise image. Nous sommes des gens respectables, nous avons notre petit business et ça marche très bien.
We give music.
Voilà, nous donne quelque chose aux gens. Nous sommes le genre Robin Hood.
Vous n'êtes pas du tout des aventuriers?
Oh non, je crois pas. We're not adventurers, are we?
No, just jockeys.
Nous sommes que des pauvres petits disc jockeys.
En novembre, pour concurrencer Europe numéro 1 et son émission très populaire « Salut les copains », celui qui est devenu le président Roscoe anime en fin d'après-midi Minimax depuis les studios de la rue Bayard.
C'est Minimax, minimum de blabla, maximum de musique avec le président Roscoe, le plus beau, celui qui veut bomb ma meilleure.
Roscoe, yeah, tu es beau dans ton studio.
I know you don't know what I'm going through. Standing here looking at. Okay, she's in love, don't stand in her. Up to you, I'll do anything you want me to. You love me, oh, please love me again. I can't let you go back to him. He's all over the world. It's so bad. Come back, it hurts so bad. Don't like it hurts so bad.
En cette fin novembre, les ennuis se précisent pour Radio 390. L'un des experts mandatés par le ministère des Postes établit que le Knock John 4 est bien dans les eaux territoriales si l'on considère la Convention de Genève. Selon lui, en se basant sur cette convention, la limite des eaux territoriales ne doit pas être calculée depuis la côte, mais depuis toute parcelle de terre qui apparaît à chaque marée basse. C'est visiblement le cas de Middle Bank, un banc de sable près de l'île de Sheppey. Selon cet expert, c'est donc de cet endroit que doit être calculée la limite des eaux territoriales et donc la distance avec Red Sand 4. L'argument fut jugé recevable par le tribunal et la société Estuary Radio fut condamnée pour utilisation d'une fréquence d'émission radiophonique non attribuée. Même si Ted Albury fit immédiatement appel, il décida de mettre en silence Radio 390 le 25 novembre. Il avait enregistré un message la veille qui fut diffusé quelques instants avant l'arrêt des émissions. Radio 390, qui séduisait a priori environ 4 800 000 auditeurs, allait donc se taire.
Here's an announcement by Ted Albury. Hello there. This is Ted Albury speaking. I'm making this recording on the evening of the 23rd of November, the day before I go to court at Canterbury. If the Canterbury magistrates come down on our side, it will be destroyed and you'll never hear it. But if we lose, it is almost certain that we shall be allowed to appeal. However, it is possible that it might be decided by the court that we should cease broadcasting pending the appeal being heard. You know that I shall do everything possible to come back on the air as quickly as possible. I am advised that it might take 3 to 4 weeks for the appeal to be heard. And if we won the appeal, we should start broadcasting again immediately. However, if we lost the appeal, it would mean that we should have to cease broadcasting from the fort. I should expect to make some alternative arrangements.
À plus de 19 000 km de la Grande-Bretagne, la première radio offshore de Nouvelle-Zélande fait ses premiers pas sur les ondes le 1er décembre après de multiples péripéties. Le destin de cette radio est unique dans l'histoire des stations maritimes, car elle est l'une des très rares qui finira par obtenir une licence pour émettre légalement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est l'omnipotence et le manque d'ouverture de la NZBC, New Zealand Broadcasting Company, qui inspira à un jeune journaliste l'idée de créer une radio offshore. David Gapes avait suivi l'évolution de Radio Mercure au Danemark et Radio Caroline en Grande-Bretagne. Il en avait conclu qu'une radio du même genre en Nouvelle-Zélande aurait un énorme succès. Mais de nombreux défis se dressèrent contre le projet, à commencer par l'isolement géographique du pays, sans voisins proches, ce qui allait rendre difficile la création et le maintien de la radio. Gapes et son premier associé convinrent qu'il leur fallait quitter Wellington pour Auckland, nettement plus peuplé. C'est au large de cette grande ville qu'une radio pourrait rapidement trouver un public. N'ayant à peu près aucune connaissance du domaine maritime et de celui de la radio, les deux hommes parvinrent tout de même à localiser un territoire marin situé entre deux îles, Little Barrier et Great Barrier et la péninsule de Coromandel, un triangle de mer qui était dans les eaux internationales. Si la petite équipe parvint assez vite à trouver un bateau, le Okianga, elle rencontra d'énormes difficultés pour attirer des investisseurs. Les compagnies de tabac, d'abord pressenties, du fait de leurs relations tendues avec la NZBC, ne furent pas intéressées. À peine né, le projet Radio Oaki mourait à petit feu. Gapes tenta le tout pour le tout. Profitant de ses contacts dans le milieu du journalisme, il parvint à faire publier un article dans le New Zealand Herald le 9 avril 1966. On pouvait y lire qu'un projet de radio était très avancé et que la station allait arriver très bientôt sur les ondes. C'était faux. Mais deux anciens employés de la NZBC, qui tentaient eux aussi de créer une radio offshore et qui rencontraient également des difficultés, décidèrent de rejoindre le projet de David Gapes. À leur grande surprise, ils finirent par trouver un soutien financier auprès d'Europa Oil, une importante compagnie pétrolière nationale. En juillet 1966, ils réussirent à attirer d'autres investisseurs. mais ils durent faire face à la difficulté de se procurer du matériel de diffusion à cause des restrictions d'importation. Un passionné leur fournit un émetteur de la marine américaine datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais bientôt, ils découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls à travailler sur un projet de radio offshore. On parlait de Radio Ventura, puis de Radio Southern Cross. La presse se fit l'écho de toutes ces initiatives en gestation. Craignant de devoir faire face à une situation analogue à celle de la Grande-Bretagne, le premier ministre néo-zélandais, Kees Ohioake, déclara que son gouvernement étudiait de près le Marine Broadcasting Offence Act britannique pour promulguer une loi similaire dans le pays. Cette annonce fut faite au moment où l'on parla encore d'un autre projet de station offshore, Radio International, ainsi que d'un projet de télé. La situation devenait périlleuse pour Radio Oraki si elle voulait être la première à arriver sur les ondes. Un nouveau coup dur affecta le projet. En août, on leur annonça que le Okyanga ne serait pas disponible avant au moins 4 mois. Or, l'équipe voulait débuter les émissions le 1er octobre au plus tard. La seule alternative était un vieux caboteur très délabré, le MV Tiri. Mais la perspective d'une future loi et de la concurrence qui s'annonçait ne permettait plus de tergiverser. Le MV Tiri accueillerait donc Radio Oraki. Le 17 septembre 1966, le bateau était prêt, mais le ministère de la Marine réussit à bloquer son départ en argumentant qu'il ne devait pas être considéré comme une barge, mais comme un navire, et qu'à ce titre, il devait répondre à des normes de sécurité plus strictes nécessitant une inspection. Des discussions s'engagèrent entre le gouvernement et les responsables de la future station. Espérant décourager l'équipe, le gouvernement promit qu'aux prochaines élections, des licences seraient attribuées aux radiodiffuseurs privés. Le ministre Jack Scott affirma aussi qu'il allait peser de tout son poids pour que l'équipe de Radio Oraki puisse produire des programmes pour la chaîne régionale 1YD de Auckland. Les ardeurs de l'équipe de David Gibbs furent temporairement calmées. Mais le 15 octobre, lorsqu'il fut évident que le conseil d'administration de la NZBC ne solliciterait pas les membres de Radio Oraki pour sa station 1YD, il fut décidé que le Tiri prendrait discrètement la mer le 22 octobre à minuit. Mais les préparatifs du départ ne passèrent pas inaperçus. Et le jour dit, l'Auckland Star publia un article annonçant le départ du bateau pour la nuit. La police informa les responsables de la station des conséquences juridiques encourues s'ils outrepassaient la retenue du Tiri par le ministère de la Marine. Et un bateau des forces de l'ordre prit position à l'entrée du bassin Leiter. Le lendemain, dans la soirée, les amarres du Tiri furent discrètement libérées une par une et le bateau quitta lentement le quai. Mais un policier réussit à sauter à bord. Aussitôt après, le navire aborda une zone peu profonde et sa coque toucha le fond, le rendant prisonnier de la boue. Sidérés, les membres de Radio Oraki virent en plus que le pont routier enjambant la sortie du bassin était en train de s'abaisser. La foule, nombreuse sur le quai, se précipita pour déblayer la boue et le navire put repartir avec difficulté. Mais au moment où il passa sous le pont partiellement baissé, son mât se prit dans la structure métallique de l'ouvrage. Deux membres de la radio parvinrent à libérer le mât, mais la manœuvre induite amena le bateau à heurter une partie du pont. Le Tiri se coucha sur le flanc. Il était cette fois bien immobilisé. Et la police l'investit immédiatement. Toute l'équipe fut arrêtée. Le 24 octobre, tous les membres de Radio Oraki furent libérés. Mais le Tiri était sous bonne garde. Le 2 novembre, ils passèrent en comparution au tribunal. Et le 7, le juge décida l'abandon de toutes les charges qui pesaient, considérant que le ministre Jack Scott avait abusé de son pouvoir pour influencer le ministère de la Marine et retenir le bateau sans fondement. Cette décision intervint alors que le soutien populaire à la future radio était énorme. Maintenant libre, les responsables de la station planifièrent pour le 10 novembre le départ du Tiri pour la haute mer. Le départ se passa très bien et le 11, le navire jetait l'ancre dans le golfe d'Oraki. Mais une série de problèmes techniques et une mauvaise météo retardèrent encore l'arrivée de la station sur les ondes, initialement prévue le 12 novembre. Le 21, la station débuta un premier essai de transmission, avec un mât de fortune. Mais le signal était si faible qu'il fut décidé de ne pas poursuivre et de ramener le bateau à quai pour ériger le mât définitif. De retour en mer le 1er décembre, la radio fit un nouvel essai. Cette fois, le signal était très clair et audible dans tout Auckland.
Roger, ZM2155, strength 4 and clear.
Message reads, on board Tyrry, fighting time and fatigue in efforts to put Radio Haraki on air today, Saturday. Is that okay? Over.
Le lendemain, une violente tempête soufflant dans le canal de Colloville obligea l'équipage à ramener le Tyrry vers la côte. Mais avant que le navire n'atteigne Port Tryfonagh, le mât de transmission s'effondra sous la violence du vent. Un mât de fortune fut assemblé et Radio Haraki put revenir sur les ondes le 4 décembre à 9h.
A night in November. Freiburg Wharf, Auckland. Time, 10 o'clock. For the third time lucky, the Tyrry prepares to slip her moorings and head for open sea. In contrast to a Sunday night 3 weeks earlier at the Western Viaduct, this night the wharf's deserted. No cameras, no well-wishers, only the stars to see her sail. And yet, for those on board, this night, in November, is a night to remember. Lines are cast off, and silently, Tyrry drifts away from the berth that was never of her choosing. At last, inevitably, after 8 months of planning and dreaming, Radio Haraki is happening.
En Grande-Bretagne, la situation est étrange. D'un côté, Ronan O'Reilly affirme que 53 députés soutiennent l'idée d'une légalisation sur Terre des radios offshore. Il ne précise pas de quel parti ils sont issus. Le syndicat des musiciens, quant à lui, voit d'un assez mauvais œil la perspective que la BBC ouvre un programme dédié à la musique pop. Cela constituerait une extension des heures de diffusion de musique enregistrée. Or, The Musicians Union est très soucieux des accords passés de longue date avec la radio publique britannique sur la durée de musique jouée en direct par les musiciens. Toutefois, la réalité politique risque de peser plus lourd que les intérêts des musiciens. Le gouvernement est en effet très conscient qu'il ne peut se limiter à réduire purement et simplement au silence ces émetteurs qui ont largement trouvé un public. Si le Marine Broadcasting Offense Act parvient à isoler les radios offshore au point de les faire taire, il va bien falloir combler le vide. Le Sydney Morning Herald du 21 décembre se fait l'écho des échanges entre la BBC et le gouvernement. Plan de musique pop de la BBC pour lutter contre les pirates. Londres, mardi, la BBC a reçu l'autorisation de créer un programme radio pop pour combattre les stations pirates. Le gouvernement a introduit une législation pour lutter contre les stations pirates, mais il se rend compte qu'il est nécessaire de créer un nouveau service pour combler cette lacune. La BBC a décidé d'utiliser ses services à ondes moyennes pour diffuser de la musique pop en continu de 5h30 à 19h30 et de 22h à 2h du matin. C'était les DJ de la Haute-Mer, 16e épisode.